Bonjour à tous, vous écoutez La Boîte à Histoire.
Avec Alaïs au micro et Maëlle à la technique.
Et pour nous réchauffer en ce mois de janvier,
voici un livre qui sent bon l'été et la Provence.
La gloire de mon père, de Marcel Pagnol. L'histoire commence avec les premiers souvenirs de Marcel Pagnol, dans cette école d'Aubagne où enseignait son père. Lorsqu'elle allait au marché, ma mère me laissait au passage dans la classe de mon père, qui apprenait à lire à des gamins de 6 ou 7 ans. Je restais assis, bien sage, au premier rang, et j'admirais la toute-puissance paternelle. Il tenait à la main une baguette de bambou. Elle lui servait à montrer les mots qu'il écrivait au tableau noir et quelquefois à frapper sur les doigts d'un cancre inattentif. Un beau matin, ma mère me déposa à ma place et sortit sans mot dire, pendant qu'il écrivait magnifiquement sur le tableau, « La maman a puni son petit garçon qui n'était pas sage. » Mais tandis qu'il arrondissait un admirable point final, je criais,
« Non, ce n'est pas vrai !»
Mon père se retourna soudain, me regarda stupéfait et s'écria, « Qu'est-ce que tu dis ?»«
Maman ne m'a pas puni, tu n'as pas bien écrit. »
Il s'avança vers moi. « Mais qui t'a dit qu'on t'avait puni ?»«
Bah, c'est écrit. »
La surprise lui coupa la parole un moment. « Voyons, voyons !» dit-il enfin. « Est-ce que tu sais lire ?»«
Oui. »«
Voyons, voyons !» répéta-t-il. Il dirigea la pointe du bambou vers le tableau noir. « Bien, lis !» Je lus la phrase à haute voix. Alors, il alla prendre un abécédaire et je lus sans difficulté plusieurs pages. Je crois qu'il eut ce jour-là la plus grande joie de sa vie. Lorsque ma mère survint, elle me trouva au milieu des quatre instituteurs qui avaient renvoyé leurs élèves dans la cour de récréation et qui m'entendaient déchiffrer lentement l'histoire du petit Poucet. Mais au lieu d'admirer cet exploit, elle pâlit, déposa ses paquets par terre, referma le livre et m'emporta dans ses bras en disant « Mon Dieu, mon Dieu !» Sur la porte de la classe, il y avait la concierge, qui était une vieille femme corse. Elle faisait des signes de croix. J'ai su plus tard que c'était elle qui était allée chercher ma mère, en l'assurant que ces messieurs allaient me faire éclater le cerveau.
Alors, puisque le petit Marcel sait lire, son père va le laisser rester dans sa classe?
Non, parce qu'il va être muté dans un lycée beaucoup plus grand à Marseille, et Marcel ne sera plus dans sa classe.
À Marseille? Mais je croyais que cette histoire se passait à la campagne.
À la campagne, oui, mais pendant les vacances, parce que le père et l'oncle de Marcel vont louer une maison perdue dans la garrigue. Ils vont d'ailleurs retaper de vieux meubles pour la remeubler.
À Marseille, et le vieux port qui semblait lancer les deux bras vers la mer. Est-ce qu'il se souvient que déjà je chantais pour lui plaire? Je ne l'ai pas aimé tous les jours, mais j'ai souffert loin de lui. Oh, j'espère que je serai toujours chez moi, à Marseille. C'est vrai, bien souvent j'oublie la distance qui m'a fait quitter les rues de l'enfance. Je suis parti loin pour saisir ma chance, mais pas assez pour ne plus que j'y pense. Oh, Marseille.
Lorsque ma mère, qui nous attendait à la fenêtre, vit arriver ce chargement, elle disparut aussitôt pour reparaître sur le seuil. « Joseph, dit-il selon l'usage, tu ne veux pas entrer toutes ces saletés dans la maison ?»«
Ces saletés, dit mon père, vont être la base d'un mobilier rustique que tu ne te lasseras pas de regarder. Laisse-nous seulement le temps d'y travailler. Mes plans sont faits. Je sais où je vais. »
Ma mère secoua la tête et soupira, tandis que le petit Paul accourait pour aider au déchargement. Nous transportâmes tout le matériel à la cave, où mon père avait décidé d'installer notre atelier. Nos travaux commencèrent par le classement d'outillage. Une scie, un marteau, une paire de tenailles, des clous de taille différente, mais également tordus par ce précédent extraction, des vis, un tournevis, un rabot, un ciseau à bois. J'admirais ce trésor, ces machines, que le petit Paul n'osait pas toucher, car il croyait à la méchanceté active des outils pointus ou tranchants et faisait peu de différence entre une scie et un crocodile. Cependant, il comprit bien que les grandes choses se préparaient. Il partit soudain en courant et nous rapporta avec un beau sourire deux bouts de ficelle, des petits ciseaux en celluloïde, un écrou qu'il avait trouvé dans la rue. Nous accueillîmes ce complément d'outillage avec des cris d'enthousiasme et de reconnaissance, tandis que Paul rougissait de fierté. Mon père l'installa sur un tabouret de bois et lui recommanda de n'en jamais descendre.
« Tu vas nous être très utile, lui dit-il, parce que les outils ont une grande malice. Dès qu'on en cherche un, il comprend et il se cache. »«
Parce qu'ils ont peur des coups de marteau, dit Paul. »
« Naturellement, dit mon père. Alors toi, sur ce tabouret, surveille-les bien, ça nous fera gagner beaucoup de temps. »
Et dans cette maison dans la campagne...
Et dans cette maison de campagne, ils vont bien s'amuser ?
Oh oui, ils vont chasser des papillons, noyer les fourmis, torturer les mantes religieuses.
Quelle horreur ! Ils aiment beaucoup les animaux dans cette famille.
Et en plus, le père et l'oncle de Marcel se préparent pour faire l'ouverture de la chasse.
Ah bon ? Ils savent chasser ?
L'oncle Jules, oui, mais le père de Marcel, non. Et Marcel est blessé de voir que son père n'est pas à la hauteur.
Le père de Marcel se fait ridiculiser par l'oncle Jules ?
Au début, oui, mais il aura sa revanche. J'étais encore à 50 pas de la barre, lorsqu'une détonation retentit. Puis deux secondes plus tard, une autre. Le son venait d'en bas, je m'élançais bouleversé de joie, lorsqu'un vol de très gros oiseaux, jaillissant du vaillon, piqua droit sur moi. Mais le chef de la troupe chavira soudain, ferma ses ailes et traversant un grand genévrier, vint frapper lourdement le sol. Je me penchai pour le saisir, quand je fus à demi assommé par un choc violent qui me jeta sur les genoux, un autre oiseau venait de me tomber sur le crâne. Je frottais vigoureusement ma tête bourdonnante. Je vis ma main rouge de sang. Je crus que c'était le mien et j'allais fondre en larmes lorsque je constatais que les volatiles étaient eux-mêmes ensanglantés, ce qui me rassura aussitôt. Je les pris tous les deux par les pattes, c'étaient des perdrix, mais leur poids me surprit. J'avais beau hausser les bras, leur bec rouge touchait encore le gravier. Alors, mon cœur sauta dans ma poitrine. Des bartavelles, les perdrix royales, et je les emportais vers le bord de la barre. C'était peut-être un doublé de l'oncle Jules. Comme je traversais péniblement un fourré, j'entendis une voix sonore qui criait sur un ton de mauvaise humeur.
Mais non, Joseph, mais non! Il ne fallait pas tirer, elles venaient vers moi. C'est vos coups de fusil, pour rien, qui les ont détournés.
J'entendis la voix de mon père, que je ne pouvais voir car elle devait être sous la barre. J'étais à bonne portée, je crois bien que j'en ai touché une. J'ai vu voler des plumes.
Moi aussi, ricana l'oncle Jules. J'ai vu voler des plumes qui emportaient les bartavelles à 60 à l'heure, jusqu'en haut de la barre où elles doivent se foutre de nous.
Je m'étais approchée et je voyais le pauvre Joseph. Sous sa casquette de travers, il mâchonnait nerveusement une tige de romarin et hochait une triste figure. Alors je bondis sur la pointe d'un rocher qui s'avançait au-dessus du vaillon et le corps tendu comme un arc, je criais de toutes mes forces.
Il les a tués, toutes les deux, il les a tués!
Et dans mes petits poings sanglants, où pendaient quatre ailes dorées, je haussais vers le ciel la gloire de mon père en face du soleil couchant.
Bien fait pour l'oncle Jules.
Bah, il est plutôt gentil en fait. D'ailleurs, si tu veux connaître la suite des aventures du petit Marcel et de sa famille, le deuxième tome s'appelle Le château de ma mère.
Waouh, ils vont aller habiter dans un château?
Mais pas du tout. Pas du tout, mais le livre est plein de soleil et de chants de cigales, alors ça te réchauffera.
En tout cas, la boîte à histoire, c'est fini pour aujourd'hui. Prochain rendez-vous le vendredi 3 février, toujours en direct à 14h15.
N'hésitez pas à nous retrouver sur la page de l'émission du site de la radio.
Il y a tout au long des marchés de Provence qui sentent le matin, la mer et le midi. Des parfums de fenouil, melons et céleri. Avec par-ci, par-là, quelques gosses qui dansent. Voyageur de la nuit, moi qui en ribambelle et franchi des pays que je ne voyais pas. J'ai hâte, au point du jour, de trouver sur mes pas ce monde émerveillé qui rit et s'interpelle le matin au marché. Voici pour 100 francs du thym, de la garrigue, un peu de safran et un kilo de figues, voulez-vous pas vrai? Un bon cage de pêche ou bien d'abricot? Voici l'estragon et la belle échalote, le joli poisson de la Marie-Charlotte, voulez-vous pas vrai? Un bouquet de lavande ou bien quelques œillets. Et par-dessus tout ça, on vous donne en étrenne l'axa qui se promène et qui n'en